podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
The Andromeda Strain est une mini-série de science-fiction diffusée sur E&E Network en mai 2008 et basée sur une nouvelle publiée en 1969 par Michael Crichton à propos d'un groupe de scientifiques qui enquête sur une épidémie mortelle venant de l'espace. Des audiences peu satisfaisantes pour un show méchamment éreinté par les critiques dont nous parle aujourd'hui Tilman Villette.
Bonjour.
Et pour en discuter autour de la table, Héloïse Rouard et Sarah Sepulcre.
Bonjour. Bonjour.
Alors, la menace Andromède, donc en français, beaucoup plus facile à dire que The Andromeda Strain.
Je confirme.
C'est une mini-série donc, qui est un remake d'un film de science-fiction éponyme des années 70 réalisé par Robert Wise et basé donc sur une nouvelle de feu Michael Crichton. La version télévisuelle en reprend la trame principale, à savoir donc un satellite qui s'écrase sur la petite ville de Piémont dans l'Utah, où quelques temps plus tard, en fait, tous les habitants meurent comme asphyxiés par une sorte de mal invisible, dans d'atroces souffrances. D'ailleurs aussi, on voit les veines qui apparaissent sur les visages des gens qui deviennent tout bleus. Ou alors, il y a quelques survivants qui se suicident, et toujours de manière les plus atroces possibles. Donc sur une caméra de surveillance que après on retrouve dans cette ville-là, on voit un type en train de se trancher la gorge avec une tronçonneuse, ou bien en train d'abattre carrément des gens avec un fusil à pompe avant de retourner le fusil à pompe vers lui. Donc voilà, des comportements un peu étranges. Finalement, toute la ville semble décimée. Et donc l'armée va arriver sur place pour voir ce qu'il est en train de se passer à Piémont. Le premier groupe de l'armée arrive rapidement sur place et ben, ils meurent tous aussi. Toute l'armée y passe, donc il semblerait qu'il y ait quelque chose dans l'air qui fasse que les gens meurent directement. La défense aux USA décide d'intervenir quand même, puisque c'est un petit problème, une épidémie de ce genre, et surtout que ça peut se propager. On va déléguer sur place finalement un groupe de scientifiques, parmi les plus spécialistes, je dirais, dans leur domaine, donc un bactériologue, un type qui s'occupe des virus.
Un Gil Grissom.
Voilà, c'est un peu tous des Gil Grissom, vraiment bien calés tous sur le sujet, pour déjà déterminer les causes de cette épidémie et l'endiguer. Mais bon, les choses vont se révéler beaucoup plus compliquées qu'elles en ont l'air, puisqu'ils vont arriver sur place avec des sortes de grosses combinaisons, un peu de cosmonautes épidémiologistes. Et donc ils arrivent sur place, sur la ville de Piémont, afin d'étudier le virus, et ils embarquent donc sous couverture le satellite pour l'étudier, voir un petit peu ce qu'il contient. Et ils vont trouver aussi deux survivants dans cette ville, un bébé qui a survécu assez inexplicablement près de sa maman qui était morte, et un vieil alcoolique qui délire à plein tube et qui a l'impression d'une sorte d'attaque extraterrestre. Enfin voilà, donc ils embarquent les deux survivants dans leur hélicoptère et ils retournent dans le laboratoire high-tech de l'un des épidémiologistes qui a fait construire sous terre, enfin, une sorte de base un petit peu étrange, comme ça, un petit peu technologique. Ils vont ouvrir le satellite et donc ils vont voir une matière visqueuse noire qu'ils vont analyser, et donc ils vont se rendre compte que c'est cela en fait Andromède, c'est une sorte de souche de bactéries. Ils ne savent pas trop si c'est une bactérie, un virus, puisque ça ne réagit pas comme d'autres choses qu'on a pu voir actuellement sur Terre. Donc ils sont vraiment en train de se demander, est-ce que c'est quelque chose de terrestre, est-ce que ça vient de l'espace, est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une autre planète ou bien qui a été envoyé par une autre planète également.
Ça fait quand même un peu penser au scénario du Blob.
Voilà, c'est un peu ça, sauf que ça grossit pas ici et que c'est pas gélatineux, c'est juste comme une tache de goudron. Est-ce que c'est un complot alien, une arme expérimentale, on parle même d'attaque de la Corée du Nord, une faille spatio-temporelle qui aurait envoyé quelque chose en une sorte de vortex. Il y a plein d'hypothèses qui sont lancées et c'est pas la moindre qui va finalement être la bonne. Donc en parallèle de l'épidémie, on suit aussi l'histoire d'un journaliste en fait assez sulfureux qui aime bien déterrer les histoires un petit peu croustillantes et qui va donc se rendre compte de ce qui se passe à Piémont et va commencer à creuser cette histoire d'armée, puisque semble-t-il l'armée essaie de cacher les choses, puisqu'on ne présente pas au public, on dit qu'il y a simplement eu des problèmes dans une usine chimique. Enfin, on essaie de cacher au maximum au grand public ce qui s'est produit à Piémont. Et donc ce journaliste va essayer de déterrer les choses et va se rendre compte que il y a une épidémie létale pour l'humanité qui est en train d'envahir toute cette partie-là des États-Unis. et il va essayer aussi de voir au sein de l'armée si on n'essaie pas justement de cacher trop de choses au public.
C'est une mauvaise habitude, enfin une mauvaise, je n'en sais rien, mais c'est une habitude régulièrement d'avoir un journaliste qui sert d'interface entre les spectateurs et les scientifiques dans les séries télévisées.
Il sert d'interface entre les scientifiques et le public, mais il sert également, surtout ici, d'interface entre les scientifiques et l'extérieur, puisque les 5 scientifiques qui travaillent donc sur Andromède sont dans le laboratoire et ne bougent durant toute la série pas du laboratoire, alors que lui est sur place, juste à côté, je dirais, de Piémont pour aller enquêter. D'ailleurs, à plusieurs moments, il risque sa vie, puisque l'épidémie se propage aussi à bout d'un moment par les airs. Il connaît un des scientifiques pour pouvoir donc entrer en contact, expliquer à chacun ce qui se passe et voir également si l'armée n'essaie pas d'exploiter la science, entre guillemets, des scientifiques à de mauvaises fins. Expliquer comme ça, ça pourrait faire un bon thriller de science-fiction. C'était effectivement ce que le film d'origine était, un bon thriller de science-fiction. Et c'est dommage d'ailleurs avec cette série-ci de voir que le résultat, mais je vais y revenir après, est assez médiocre par contre, pour d'autres raisons que le scénario. Mais je préfère d'abord qu'on s'écoute peut-être un petit extrait. Pour commencer, c'est toujours mieux de voir un petit peu quels sont les personnages. Et ici, il y a une scène où chaque scientifique en fait se présente, puisqu'ils ne se connaissent pas l'un et l'autre. Et donc, ils expliquent un petit peu chacun leur parcours, alors qu'ils viennent d'être regroupés par le général Manchek, qui est en fait le militaire en charge de l'affaire Andromède.
Docteur Stone ?
Bien, certains d'entre vous ont déjà travaillé ensemble. Vous avez certainement lu les travaux des uns et des autres. Et sinon, vous vous connaissez de nom. Jeremy Stone, chef du département de recherche à Johns Hopkins et consultant en chef pour le projet Wildfire ainsi que son concepteur.
Où se trouve le laboratoire ?
Pour des raisons de sécurité, nous devons garder cette information secrète.
On n'a pas le droit de savoir où on va travailler ?
Non, mais je peux vous assurer qu'à tout moment, nous serons en contact avec l'extérieur. Docteur Noyce ?
Docteur Angela Noyce, chirurgienne et biologiste spécialisée dans les maladies tropicales et exotiques.
Docteur Charlene Barton, pathologiste. Je suis passée par le CDC et j'appartiens au service de santé de San Francisco.
Major Bilkin, docteur en médecine, virologue à l'Institut de recherche médicale de l'armée sur les maladies infectieuses. Fort Detrick, Maryland.
Docteur Tsai Chu, microbiologiste.
Trop modeste. Il y a 10 ans, le docteur Tsai Chu était un des premiers concepteurs d'armes biologiques pour le gouvernement chinois.
Mais j'ai eu la révélation divine. Maintenant, je suis consultant en bioterrorisme pour toutes sortes de sociétés américaines.
Sorti du feu pour intégrer l'enfer.
Tu nous l'as dit, donc, cet extrait par les personnages, justement, c'est le thème de ta deuxième partie de dossier.
Les héros principaux, ce sont les scientifiques qui vont étudier donc la menace Andromède. Le docteur Jeremy Stone, c'est un peu lui le chef de ces scientifiques, chef un peu autoproclamé, puisque c'est dans son laboratoire que va se dérouler les recherches sur Andromède. Une arrivée dans un laboratoire d'ailleurs assez amusante parce que ils étaient dans la ville de Piémont et donc ils sont obligés de passer dans des sortes de désinfectants. C'est très très kitsch comme scène parce que on les voit tournoyer sur une sorte de tapis roulant, on voit leurs pieds qui passent dans un liquide comme quand on va à la piscine, puis ils se font asperger d'une sorte de mousse, on a l'impression que c'est des gâteaux géants, et puis ensuite ils reçoivent une douche froide avec des sortes de désinfectants et à chaque fois sur des tapis roulants qui les font tourner dans tous les sens, un truc
à la manière de Goldorak.
Oui, voilà, exactement. Exactement, et donc on se trouve devant un truc qui veut faire tellement high-tech qu'il en devient un peu ridicule. Mais soit. Donc ça, c'est le docteur Jeremy Stone qui est donc le scientifique avec pas mal de problèmes de couple aussi. Lui, on voit au départ donc sa femme décide de le quitter parce qu'il l'a trompé avec ses étudiantes, en fait. Il est un peu volage. Son fils ne veut plus trop lui parler. Il n'a plus trop d'autorité sur son fils. Donc, bon, il est un peu en situation de divorce. Alors, il est interprété par Benjamin Bratt, qu'on a pu voir donc dans les New York District et qui est également donc un acteur qu'on voit régulièrement aussi dans des seconds rôles souvent.
Il a tourné avec Sandra Bullock notamment dans Miss Detective si je me souviens.
Voilà, exactement, et il a été le compagnon pendant plusieurs années de Julia Roberts. Pour la petite histoire. Et donc, il est avec d'autres scientifiques, et ça tombe bien, puisqu'il retrouve le docteur Angela Noyce, qui est interprétée par Krista Miller, une actrice de Scrubs. Ça tombe bien, pourquoi ? Parce que c'était une de ses étudiantes avec qui il avait une petite histoire d'amour pendant un moment. Et donc, voilà, on a droit, grâce à ça, à quelques scènes un peu mielleuses, le retour d'un ancien amour, pour qui il avait failli quitter sa femme, quand même, à l'époque. Et donc, ça cause cœur et souvenir, alors qu'ils sont peut-être en train de devoir essayer de sauver l'humanité. Mais bon, ben voilà, on trouve toujours le temps pour ce genre de petites choses. Et également, donc, le docteur Tichou, ben c'est... C'est un bactériologue, en fait, qui avait travaillé pour le programme d'armement nucléaire de la Chine et qui, donc, s'est rallié maintenant aux États-Unis et est vraiment un professionnel dans son secteur. Et lui, il est interprété par Daniel Day-Kim, qui est en fait Jean de Lost. Dans Lost, il parle quasi pas. Bah, ici, il parle beaucoup, mais on comprend toujours pas ce qu'il dit. Parce qu'il utilise un langage trop scientifique pour qu'on puisse comprendre. On a encore deux autres docteurs. On a le docteur Charlène Barton, qui est une épidémiologiste, qui s'y connaît super bien, qui a sa petite famille, qui a peur pour son fils, qui a peur pour son mari, qu'elle est obligée de quitter pour rentrer dans la base d'études. Et enfin, un personnage un peu bizarre, Charles Chuck Better, qui est interprété par Barry Flatman. Et lui, c'est un personnage un petit peu particulier. À certains moments, il lance des pistes pour dire qu'il aurait perdu un grand amour, mais on n'en sait pas plus. Et c'est à lui, justement, qu'est confiée la possibilité d'autodestruction du laboratoire en cas d'infection par Andromède qui viendrait à s'échapper. L'ordinateur fait une étude de la personne qui serait la plus apte à avoir la possibilité, la volonté de faire l'autodestruction du laboratoire le cas échéant. Et donc, bien sûr, ça nécessite son pouce pour faire son empreinte, ça nécessite son œil, une empreinte rétinienne, enfin des choses comme ça. Et on comprendra bien qu'au bout d'un moment, Andromède va se faire un petit peu la malle dans le labo et qu'il risque d'y avoir des problèmes si ce personnage n'est pas présent à côté de l'autodestructeur ou du moins de l'appareil qui permet d'arrêter aussi l'autodestruction si elle est lancée. Donc ça, c'est les personnages qui se retrouvent coincés dans cette base pour étudier le virus Andromède, et c'est tout le gros problème, je pense, de la série, c'est que ces personnages qui auraient pu être intéressants, même dans les limites du raisonnable, parce que bon, ils sont pas très fouillés, mais qui auraient pu être intéressants à l'extérieur, sont bloqués dans une base, et donc il y a un gros souci, parce qu'on reste toujours dans le même univers pendant 3 heures, quand même.
En même temps, ça coûte moins cher en décor.
Ah, c'est vrai que ça coûte pas cher du tout, ils pouvaient se permettre justement les tapis roulants avec la mousse et tout ça. Ça leur permet donc de discuter sur leur famille, sur leurs attentes, sur leurs espoirs, sur leur passé, sur leurs souvenirs, sur leurs amours, entre deux examinations de pipettes, etc.
C'est Dawson dans un labo.
C'est un peu ça.
Non.
C'est un peu ça pendant certains moments. On se demande un petit peu, on est en train de se dire, il y a quand même des milliers de gens qui sont peut-être en train de mourir dehors, il faudrait peut-être se bouger un petit peu. Mais ça n'a pas l'air de trop les inquiéter, puisque de toute façon, finalement, c'est un peu une coïncidence, ils réussissent à trouver l'antidote, entre guillemets, à Andromède. Donc bon, c'est pas si grave que ça, ils ont le temps de glander un petit peu dans leur laboratoire. Et donc à l'extérieur, par contre, là, on a Jack Nash, qui est le journaliste, fameux journaliste qui enquête toujours donc sur les exactions peut-être de l'armée, qui est interprété par Eric McCormack, qui est le Will de Will and Grace, qui est un personnage totalement à l'opposé de Will, puisque Will était toujours bien propre sur lui, bien poli, bien calme. Et ben là, on a un personnage qui est peut-être malheureusement le plus intéressant, un petit peu déglingué, cocaïnomane, alcoolique, qui fume comme un trou, qui fouille où il devrait pas fouiller la plupart du temps, qui donne des petits pots de vin à ses indiques pour avoir des informations. Un personnage qui est assez intéressant dans la première partie et puis qui devient un peu anecdotique dans la deuxième, puisque il se retrouve un petit peu coincé au milieu de l'épidémie aussi. Il réussit toujours à s'échapper, mais malgré tout, bon, c'est juste à ce moment-là une course-poursuite pour sa vie à lui. Mais on perd justement ce petit côté intéressant et borderline du personnage. Je propose d'écouter peut-être le groupe des scientifiques qui essaie justement de discuter entre eux dans un langage un petit peu obscur de ce que peut donc être Andromède, et nous explique pour cela la théorie du messager.
C'est la première fois que je vois ce genre de structure cellulaire.
Ouais, t'as vu l'architecture étonnante que ça. Complètement irrégulier.
C'est totalement illogique. Sauf si c'est un élément d'un autre organisme.
D'un plus grand organisme.
Ouais. Donc, est-ce qu'Andromède est autonome comme une bactérie, ou est-ce qu'il fait partie d'un ensemble plus grand comme un organe?
La théorie du messager.
C'est quoi la théorie du messager?
C'est une théorie d'astrobiologiste dont on parle depuis quelques années. Les voyages spatiaux sont longs et difficiles. Plutôt que d'embarquer quelques symboles gravés sur une plaque à bord d'un satellite, comme on l'a fait avec Voyager, ne vaudrait-il pas mieux envoyer un message inscrit dans des cultures bactériennes, par exemple, ou virales?
Tu veux dire qu'Andromède serait un message composé par des êtres doués d'intelligence qu'il nous aurait envoyé depuis le fin fond de l'univers?
Ou peut-être au travers d'un vortex?
Ça, je sais pas. Mais si Andromède ressemblait aux cellules humaines? S'il avait la capacité de se transformer en différents composants selon ce qu'il rencontre, ou selon ce pourquoi il a été conçu au départ?
Bon, d'accord. Si on est dans le domaine des suppositions, Ne partons pas de l'idée que c'est le message, partons de l'idée que c'est le messager. On se représente généralement l'extraterrestre comme un être évolué, singulier et complexe, mais ça pourrait être une colonie.
Tu oublies le plus important. Qu'Andromède soit le texte du message lui-même ou qu'il soit le livreur qu'il dépose dans ta boîte aux lettres, le message reste d'une clarté absolue. C'est notre mort annoncée.
Tellement sincèrement, j'hésite entre demander l'avis du public ou faire appel à un ami.
Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu qui veut gagner des millions aussi, quoi. Un peu techno-thriller, ambiance, comme ça, ouais. C'est un peu à l'image de la série, quoi. Un petit peu tiède. Ça a des bonnes idées au départ. Franchement, le début est assez sympa. On a vraiment, quand on découvre cette ville de Piémont, totalement sous épidémie avec les gens qui tombent comme des mouches à gauche, à droite. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, les maquillages au tout début sont assez impressionnants aussi. Mais on tombe vite de haut, malheureusement, puisque une fois que les scientifiques repartent avec Andromède dans leur base, mais il ne se passe plus rien, quasiment. Et les choses qui adviennent à ce moment-là frisent le ridicule. Donc, à un moment donné, ne cherchons pas à savoir pourquoi l'armée qui décide d'envoyer une bombe nucléaire sur Piémont pour essayer d'annihiler le virus. Je ne suis pas sûr que le nucléaire soit la meilleure des solutions pour ce genre de choses, mais soit, ils essaient d'envoyer ça. Andromède, à ce moment-là, muterait et s'attaquerait au polymère de l'avion pour le désintégrer. Faut pas chercher à comprendre, je vous ai dit, c'est un petit peu...
C'est rétroactif, en fait.
Oui, parce qu'en fait, disons qu'Andromède se sent menacé et donc parcourt les airs pour attaquer la coque de l'avion, parce que juste au moment en fait où l'aviatrice, la pauvre aviatrice, voulait larguer la bombe, les scientifiques ont dit « Oh non, non, tout de suite, faut pas lancer la bombe, on a fait des expériences, ça va multiplier Andromède encore plus. » Ouf, sauvé. La bombe n'a pas été lâchée. Ben non, Andromède attaque l'avion parce qu'elle sait qu'en fait, le nucléaire va réussir à la faire grandir. Donc l'avion se désintègre d'une manière horrible. D'un point de vue visuel, c'est horrible. Les effets spéciaux sont catastrophiques. On a l'impression de voir des petits pixels qui s'en vont de l'avion en petits morceaux. Et alors l'explosion au sol aussi, on a l'impression qu'on a filmé un feu et qu'on l'a plaqué devant l'image.
C'est produit par le fils d'Edward ou bien...
Mais voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et c'est le plus marquant, mais on a plein de moments comme ça aussi. Une combinaison qui s'effrite aussi par petits pixels. Enfin voilà, c'est un manque de moyens qui est flagrant. Ils ont voulu faire quelque chose de grand, mais n'ont pas les moyens de le faire. La réalisation n'a pas le talent pour le faire non plus, malheureusement, parce que c'est très très plat. Les effets spéciaux sont catastrophiques, donc je disais. Quand on n'est pas justement dans ces situations extérieures où la plupart du temps c'est catastrophique et qu'on se retrouve dans la base, on a des échanges, soit de conversations sur des choses qui n'ont rien à voir avec Andromède, ou alors sur justement des choses qui ont à voir avec Andromède, mais on ne comprend rien, puisque c'est une sorte de langage pseudo-scientifique, à base de molécules et d'expérimentations. Il y a tout aussi une théorie du messager qui est incompréhensible, ou du moins peu compréhensible, peu intéressante aussi, et ça vire au ridicule. Ces sortes de conversations virent au ridicule puisqu'on comprend rien, ça n'a ni queue ni tête, ni début ni fin. Dans l'ensemble, effectivement, c'est pas reluisant pour cette pauvre menace Andromède. Le film des années 70 a de quoi en fait encore rester une référence et n'a pas trop à s'inquiéter de l'ombre que pourrait faire ce remake là et surtout en plus ça termine un petit peu en eau de boudin aussi. Disons que la dernière demi-heure, il s'est rien passé pendant 2h30, et puis derrière la dernière demi-heure tout commence à s'emballer, Andromède commence à péter un câble et à envahir tout, il y a plein de morts, la base scientifique commence à prendre feu, il commence à avoir des explosions, il commence à avoir des morts dans cette base, enfin voilà, une dernière demi-heure où on ne sait pas trop ce qui se passe, les survivants d'ailleurs, le monsieur alcoolique et qui buvait de l'éthanol d'ailleurs aussi, et le bébé qui pleurait, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, finalement on sait juste qu'ils ont survécu parce qu'ils avaient une sorte de taux d'acidité un peu plus élevé.
Mais ça, c'est l'éthanol. Ça.
Voilà, c'est l'éthanol, et le bébé c'est juste parce qu'il respirait fort. Et donc voilà, on sait pas ce qu'ils deviennent, ils disparaissent au bout d'un moment, après 20 minutes, on sait plus où ils sont.
Ils se sont peut-être pixelisés?
Sûrement sous les effets d'Andromède, oui, oui, effectivement. Alors voilà, les personnages stéréotypés au possible, avec malheureusement des acteurs qui réussissent pas, même s'ils sont pas tous mauvais, mais ils réussissent pas à faire exister du fait du ridicule, tout simplement, de l'ensemble. Je crois qu'en lisant le script, il y avait possibilité d'imaginer que ça pourrait être mieux que ça ne l'a été, même ça aurait pas été un chef-d'œuvre, mais ça aurait pu être mieux. Et alors on a une sorte de boucle temporelle finale aussi, qui finit d'achever en fait, je pense, la totalité de l'œuvre, où on se rend compte que finalement, ben, à la fin, c'est la fin qui crée le début de l'épidémie en fait. C'est très compliqué à comprendre, mais on se rend compte que l'épidémie vient du futur. Et pourquoi elle vient du futur ? Parce qu'on en a gardé une souche de cette épidémie, qu'on a envoyée dans l'espace et qui retombe à un moment donné. Et à la fin de la menace Andromède, Ah bah, on a gardé une souche aussi qu'on envoie dans l'espace. Et c'est pour ça qu'elle revient à un moment dans un vortex.
C'est sans fin, en fait.
Eh oui, c'est sans fin. Moi, j'étais content d'arriver à la fin, quand même, des 3 heures.
Mais ça se mange pas sans fin.
Ah non, non, c'est vite, très vite indigeste, ça, c'est certain.
On se rend compte quand même que les 4400 sont passés largement par là. Hein.
En effet.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.